L'Ayurveda Sourire, une émission présentée par Gwenaël Bhattar, praticienne en médecine ayurvédique, herbaliste, auteure et conférencière.
Bonsoir mes merveilleuses pépites et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission L'Ayurveda Sourire. Ce soir, nous allons continuer nos explorations au sein des Védas, les grands textes de sagesse indiens, en parlant d'un art sacré de l'Inde, un moyen d'élévation spirituelle qui symbolise l'union des êtres avec le divin, la danse. Rabindranath Tagore, qui est un artiste, un écrivain et philosophe indien, disait très joliment que la danse est méditation extatique au centre immobile du mouvement. C'est une citation que j'apprécie beaucoup et qui est totalement en lien avec notre émission du jour. Quand l'être danse, il s'unit avec le divin, avec l'univers et avec les autres. C'est une forme de yoga, une connexion totale avec les éléments et les énergies cosmiques. C'est un vrai chemin en fait vers sa spiritualité. Ce soir, pour entrer dans la danse, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés une professeure de danse Bharatanatyam, très attachée à l'authenticité de cet art sacré et qui enseigne déjà depuis 20 ans. Elle a même d'ailleurs été ma professeure. Bonsoir Jyotika Rao.
Bonsoir Gwenaël.
Comment ça va ?
Très bien.
Alors, la danse est véritablement un art sacré en Inde. On dit que les dieux demandèrent à Brahman de transmettre un nouveau Veda qui retranscrirait l'aspect divin et sacré de la danse et du théâtre. Et pour honorer ces arts, il aurait révélé à Bharata un grand texte, le Natya Shastra, qui est considéré comme le cinquième Veda. C'est de ce texte que proviennent les huit grands styles de danse traditionnelle de l'Inde, le Bharatanatyam, qui est le plus connu et celui dont nous allons parler ce soir, l'Odissi, le Kathak, le Kathakali, le Manipuri, le Mohiniyattam et le Kuchipudi. Alors pour commencer, Jyotika, qu'est-ce que le Bharatanatyam ?
Alors, le Bharatanatyam est un style de danse classique issu du sud de l'Inde. Il était dansé originellement dans les temples par les Devadasis, ou servantes de Dieu. C'est, on va dire à l'époque, un véritable dialogue avec les dieux. C'est-à-dire qu'ils faisaient partie intégrante du service religieux. Les danseuses ou les Devadasis dansaient face aux dieux et dos au public. Donc ça, c'était jusqu'au début XXe siècle. À l'époque, donc à ce moment-là, cette danse s'est tournée vers les scènes de théâtre du monde et le système des Devadasis a disparu, mais je dirais que la pensée vis-à-vis de cette danse est la même.
Et d'ailleurs, la danse Bharatanatyam s'inspire aussi beaucoup de la littérature sacrée, des mythologies, des légendes. Par exemple, souvent, ça parle de déesses ou ça met aussi en scène en fait des scènes du Mahabharata.
Le Bharatanatyam prend sa source. Il y a deux aspects dans le Bharatanatyam. Il y a l'aspect technique et il y a l'aspect raconter une histoire. Donc en effet, puisque c'était un dialogue avec les dieux, mais c'est aussi raconter leurs histoires, donc le Mahabharata, le Ramayana, ou même la description de tous ces dieux, Vishnu, Shiva, Parvati. Oui.
Et où est-ce que tu l'as appris alors le Bharatanatyam ?
Alors, c'est un long parcours.
J'imagine.
Mais j'ai commencé tout d'abord à 6 ans, ici en France, à Paris, avec la doyenne de la danse indienne en France, qui s'appelle Malvika. Donc j'étais très jeune à ce moment-là. J'ai continué, je suis allée dans l'école Rishi Valley School, qui est près de Bangalore. J'avais 9-10 ans, et ça a été vraiment une révélation. Je suis restée là-bas quelques mois, mais ça a suffi pour me marquer à vie, on va dire. C'était l'école de Jay Krishnamurti. Mon maître s'appelait S. Meenakshi. C'était un entraînement très rigoureux, très intense, qui m'a marqué, qui m'a vraiment poussé à ne jamais arrêter cette danse. C'était... Donc ensuite, j'ai continué à apprendre, évidemment, mais surtout, j'ai appris avec Sucheta Chapekar, qui vit à Pune, en Inde. J'étais alors une jeune adulte et j'ai appris, autant j'avais appris la rigueur des lignes et la force avec S. Meenakshi, ici j'ai appris la grâce et la créativité.
Et qu'est-ce qui t'a amené en fait à danser le Bharatanatyam à la base et pourquoi le Bharatanatyam et pas une autre danse par exemple ?
Je suis issue d'un foyer indien. Et comme beaucoup de parents indiens, eh bien, ils veulent que leur enfant apprenne, leur petite fille apprenne ce style. Ça peut être le Kathak aussi, si c'était au nord de l'Inde. Mais mes parents sont issus du sud de l'Inde, donc voilà, ils ont voulu que j'apprenne ce style. Et même si c'était à Paris, ils ont cherché du Bharatanatyam. Et donc, ils ont fait appel à Malvika, qui était une amie de la famille.
D'accord. Et comment le Bharatanatyam est-il intégré dans la vie en Inde ?
La danse et la musique est absolument partout dans la société indienne. Ça peut être sous forme plus légère, comme le Bollywood. Ça peut être sous forme de musique classique ou légère aussi. Mais, et donc, la danse Bharatanatyam est là, partout. D'ailleurs, là, originellement, elle était issue du Tamil Nadu, du Sud. Mais maintenant, on trouve le Bharatanatyam absolument partout. En Inde, et dans le monde. Donc la danse, est vraiment dans quasiment, je dirais pas tous les foyers, mais partout.
D'ailleurs, peut-être préciser aussi que le Bollywood n'est pas une danse traditionnelle de l'Inde.
Non,
c'est une différence. Oui. Peut-être, c'est important peut-être de le préciser oui, pour les auditeurs.
Le Bollywood, c'est vraiment la danse qui est issue des films indiens, hindi ou tamil, et voilà. C'est pas du tout un style classique, un style bien agréable, mais pas classique.
Ouais. Mais c'est aussi la danse est utilisée comme un rituel aussi dans les événements importants de la vie, il me semble, en Inde. Qu'est-ce que t'en penses ?
À l'origine, quand on parle de rituel, on pense au temple. Et à l'origine, comme je disais, c'était vraiment un rituel religieux. Ça faisait partie du rituel religieux. Actuellement. On va pas faire danser, on va pas avoir du Bharatanatyam pour des étapes de la vie. Il y a une étape dans la vie d'une danseuse qui s'appelle le Arangetram. C'est le début de la carrière d'une danseuse qui veut dire que, oui, à partir de ce moment-là, elle peut se produire éventuellement sur scène ou en tout cas elle peut continuer plus sérieusement à poursuivre cet art. Mais le lien entre le divin et cette danse est très profond, on va dire.
Mmh. Et d'ailleurs, on parle. Enfin, toi, quand tu parles de danse Bharatanatyam, tu parles pas de spectacle, hein, tu parles de récital.
Oui.
Donc il y a vraiment quelque chose du domaine de l'art, quoi, de la représentation.
Oui. En effet, ce n'est pas un spectacle, c'est un récital. Cette connotation se retrouve par exemple même dans nos cours. Avant de commencer un cours, nous allons faire une salutation, tous, moi et les élèves. Nous allons frapper par terre pour honorer la terre. Nous allons toucher la terre, nos yeux, les saluer. Nous allons saluer l'espace autour de nous, les dieux, les maîtres qui nous ont enseignés, et le public qui est devant nous, éventuellement. Donc nous avons consacré cet espace, et ce lieu, et ce moment. Et nous pouvons commencer le cours, ou même le récital.
Oui, il y a vraiment déjà, dès le départ, et puis à la fin aussi, en entrée et en sortie, une connexion avec les éléments, en fait. Il y a la terre, il y a l'air avec le mouvement, il y a l'espace, le feu avec la vue, voilà, l'eau avec la fluidité des gestes. Il y a tous les éléments, en fait, qui sont présents aussi.
Oui, c'est... C'est vraiment une danse qui est pour les humains, mais qui va au-delà des humains, on va dire.
Oui, voilà. En effet, ça va au-delà des humains parce qu'il y a beaucoup de symbolique aussi dans les gestes. Il y a les mudras, il y a les expressions du visage, parfois aussi des couleurs. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
Alors, les mudras sont une gestuelle très codifiée, d'ailleurs qui se retrouve dans le Natyashastra, qui servent à raconter des histoires, mais aussi qui servent à danser, qui sont des gestes de danse. Et quand tu parles de couleurs, ces couleurs, pour nous, sont plus associées à des émotions. Il y a diverses couleurs, et c'est en cheminant à travers toutes ces émotions, et donc en évoquant ces couleurs, que nous allons amener ce qui s'appelle l'expérience du rasa.
De la saveur.
De la saveur.
Du goût. Voilà.
Du goût, alors le goût, c'est très pragmatique, mais ça veut dire c'est l'expression, l'expérience artistique, en fait. C'est le goût que le danseur ou la danseuse va donner au public pour lequel il danse.
Avec notamment les expressions du visage.
Oui, ben, il faut que ça soit concret, évidemment. Donc ça va passer par ces mudras, cette gestuelle. Et surtout par l'expression du visage, le regard. Dans une danse, avant même de commencer à danser, par exemple si nous avons plusieurs lignes sur un chant, la première ligne va d'abord être évoquée juste avec le regard. Il faut que nous puissions, avec ce regard, amener l'émotion principale de cette danse. Voilà. Donc, le regard, les expressions du visage, les mudras, le corps. Ça va être dans cet ordre-là.
Oui, donc à travers la danse, on peut exprimer des choses qu'on ne pourrait peut-être même, peut-être pas forcément exprimer à travers les mots. C'est un peu une façon de communiquer l'incommunicable.
Oui. Bah, le danseur, de toute façon, essaye de communiquer l'incommunicable. C'est quelque chose de très particulier. Le dépassement de soi par le mouvement, la grâce des mouvements, la force. Tout ça tend vers quelque chose au-dessus, au-delà. Oui.
Alors, quand on pense aux danses indiennes, on pense bien sûr au style traditionnel, mais on pense aussi à Shiva Nataraja, le Shiva dansant dans son cercle de flammes, avec sa danse cosmique, le Ananda Tandava. Cette danse, en fait, qui symbolise le processus éternel de création, de destruction, mais aussi tous les cycles cosmiques, les changements perpétuels, l'impermanence, en fait, de l'existence. C'est un peu, en fait, une manifestation physique du rythme cosmique. En quoi la danse Bharatanatyam est une expression de la spiritualité? Est-ce qu'elle est pour toi un moyen d'élévation spirituelle?
Alors, oui, évidemment. Sinon, du fait qu'elle est issue des temples,
oui.
C'est une première chose. Avant, il y avait les temples concrets, en pierre. Maintenant, nous avons nos temples, on va dire, dans notre tête. On va la créer déjà par cette salutation. Les thèmes abordés dans ces danses, partent de l'humain et vont toujours vers l'au-delà, toujours. Quand je dis l'au-delà, c'est donc vers les dieux ou vers...
Vers quelque chose de plus haut, de plus
divin.
De
plus haut, voilà. Donc même si nous ne sommes pas des Vadasis...
Enfin, on l'est peut-être un peu, en fait, hein, à l'intérieur, mais bon.
Nous faisons appel toujours à ces mêmes thèmes. Comment de ses expériences individuelles, terrestres, humaines. Comment nous arrivons à résoudre ce mystère de l'au-delà, de la vie, de la mort, de notre humanité. Qui sommes-nous ?
D'accord. Donc oui, c'est par le mouvement et par le mouvement de danser, par tous ces actes en fait d'expression intérieure vers le divin, on peut finalement aller vers un chemin qui serait en fait une sorte d'élévation spirituelle en fait, en se connectant par les éléments, en rendant hommage en fait aux divinités, peut-être retrouver aussi en soi le divin que l'on ne voit plus, peut-être le mettre en scène, le mettre en danse.
C'est ce que nous essayons de faire. Chaque expérience, chaque danseur est particulier, différent. Mais donc il y a cette technique culturelle, on va dire, cette technique de danse indienne qui va nous mettre sur ce chemin. Et c'est notre but.
Oui, parce que finalement, tous les dieux indiens, on les a aussi à l'intérieur de soi. C'est juste en fait qu'on peut les exprimer justement de différentes manières ou se relier, se reconnecter à eux par différents arts ou différentes pratiques. Le Bharatanatyam en fait partie.
Non, le Bharatanatyam en fait partie. Quand tu dis ces différents dieux, on va dire que tous ces dieux se rassemblent, oui. Ce qui s'appelle le Brahman, un seul en fait.
Tout à fait. Voilà. Oui, exactement. Mais justement, dans mon livre « L'Ayurveda sourire quand la joie du cœur et la santé du corps », je consacre une partie à la danse parce que c'est un outil qui est très important dans la pratique et l'accompagnement que je propose en Ayurveda. J'explique en fait ce que la danse peut générer à l'intérieur de soi, que c'est une méditation en mouvement, une reconnexion à sa musique intérieure, mais aussi à l'univers et au divin. Et concrètement, c'est clair que pour donner un exemple parmi tant d'autres, en Ayurveda, elle est déjà très utile pour les troubles du dosha Kapha. D'ailleurs, on avait fait une interview vidéo, Jyotika, qu'on peut retrouver sur mon site internet pour ceux que ça intéresse. Et d'ailleurs, je vous incite à aller la regarder parce que à la fin, il y a une belle démonstration de danse justement avec Sarasvati, qui est une déesse indienne à laquelle je rends hommage également à travers mes cercles de femmes. Mais la danse, en fait, c'est avant toute chose une expression de la vie. Elle est aussi fondamentale, à mon sens en tout cas, dans notre connexion à l'univers, comme on l'a vu, puisque l'univers, c'est une danse des cinq éléments. Et puis nous sommes aussi le reflet le plus parfait de l'univers, nous sommes un microcosme. Donc la manifestation en fait de ces éléments à l'intérieur de nous, la manifestation des doshas, des humeurs biologiques ayurvédiques qui proviennent justement des éléments, apporte une rythmique, une pulsation du vivant à travers nos cellules. Avec par exemple, je prends comme exemple les battements du cœur, le souffle ou même nos paroles. Tout ça en réalité c'est du mouvement. Et on dit souvent d'ailleurs que le vivant s'exprime par le mouvement. Donc on est toujours un peu dans une certaine forme de danse. Qu'est-ce que tu en penses, Jyotika ? Est-ce que pour toi la danse pourrait être considérée comme un art méditatif, un art d'union avec le divin ?
Alors, oui, tu dis des très belles phrases et des très belles choses.
Merci.
Le mot qui me touche dans ce que tu dis, c'est pulsation. La première chose que nous faisons en Bharatanatyam, c'est de frapper le sol. Cette frappe est la base de notre danse, c'est un ancrage. Le mieux nous frappons, et frapper ça ne veut pas dire frapper fort ou brutalement, c'est-à-dire bien frapper, être ancré. Le mieux nous frapperons, le plus nous serons libérés dans notre danse. Donc c'est la première chose, cette pulsation qui... Et puis, quand tu parles de pulsation, moi, ça me fait penser à notre cœur. La danse est un exercice physique qui peut être difficile, fatigant. Et justement, le paradoxe, c'est que bien que nous allons aller vite parfois ou lentement, ou c'est fatigant, notre cœur ne doit pas s'emballer. Il doit tenter de rester calme. Pour ça, il y a une pratique, un entraînement, une assaise peut-être. Et l'autre idée qui me vient quand je parle donc de battement de cœur, de pulsation et tout ça, c'est que le danseur doit rester calme à l'intérieur de lui, d'où ce thème de méditatif, méditation. C'est-à-dire, nous, malgré tous les mouvements que nous allons créer, nous devons rester calmes à l'intérieur. Il doit, pour créer un espace spécial, on peut dire sacré, spécial, de danse. Et c'est pour ça que je pensais à tout ça. Le danseur, c'est bien dit dans le Natya Shastra, est un patre. Patre, c'est un réceptacle. Réceptacle, donc, justement, de tout ça, de ce calme, de cette force. Et aussi, nous nous allons rassembler, puisque le Bharatanatyam, c'est l'expression non seulement de la danse technique, du rythme, des gestes, mais des émotions. Et donc, nous allons diffuser, distiller à partir de ce réceptacle toutes ces émotions pour que le public, ou ce qu'on appelle les rasikas, les gens qui vont apprécier ce rasa qu'on va tenter de donner.
Surtout cette saveur.
Ouais. Cette saveur, oui. Nous allons leur donner par notre, par ce calme, par cette capacité de d'émouvoir. Nous allons donner cet art.
C'est très beau, c'est vraiment, là on sent vraiment l'union avec le divin quand le danseur en fait devient l'interprète de la divinité, qu'il fait presque une offrande en fait à son public.
C'est une offrande au public et à l'univers,
ouais.
À tout.
Ouais, c'est sûr, en fait la danse c'est un peu un voyage, non?
Totalement. Quand nous dansons, Je le vois dans les cours, par exemple. Nous arrivons et on peut être fatigué, on peut être... D'ailleurs, cette salutation nous aide à nous déconnecter de ce monde concret, on va dire. Et on va entrer dans la danse. Donc, c'est le voyage de la danse. Donc, on oublie, on doit surtout se concentrer complètement, puisque ce style technique demande une concentration d'équilibre, de force, de souffle, d'imagination. Pour tout ça, il faut se concentrer et être complètement dans la danse. Et donc, à partir de là, le voyage commence.
Et toi, qu'est-ce que tu souhaites transmettre à travers cet art?
L'amour de la danse.
Ça, c'est déjà pas mal.
Déjà, concrètement, transmettre ces magnifiques lignes majestueuses, gracieuses, parfois virtuoses, le plaisir de découvrir ces rythmes savants, le contretemps, ça c'est un grand plaisir.
C'est quoi le contretemps?
Le contretemps, c'est pas la frappe sur le temps, mais la frappe juste après. Ça nous fait goûter le contretemps et le temps. C'est très agréable. C'est apprendre à être ancré au sol afin de pouvoir danser avec aise. Donc il y a déjà tout ce contexte physique très agréable. Mais c'est surtout, au bout d'un moment, arriver à un point d'harmonie. Il faut savoir que cette danse donc, s'apprend depuis notre plus jeune âge en Inde et ici. Souvent, on ne l'apprend pas à partir de l'âge de 5-6 ans. On l'apprend quand on est, par exemple, adulte. Et on découvre cette culture et on veut la partager. Donc, ce que j'essaye de transmettre souvent, c'est faire ce que l'on peut avec le corps qu'on a, mais avec les techniques, on va dire, ou les armes que je vais donner, d'arriver à un point d'harmonie. Essayer de tenir son dos, d'avoir des lignes, des belles lignes. C'est aussi, puisque il n'y a pas que la technique, ça c'est le nritta, la technique, mais il y a aussi tout le nritya ou le natya, c'est-à-dire les histoires, et donc les histoires qui vont être remplies d'émotions. Comment arriver à se déconnecter de sa personnalité individuelle, de lâcher prise et de raconter ses histoires. Donc, de n'être plus qu'un réceptacle.
Voilà. Ouais, c'est très beau parce qu'on voit bien en fait que quand même par l'alignement, et d'ailleurs là l'alignement, on peut imaginer un alignement qui va bien au-delà de la danse, et toute la structure aussi qu'il y a dans cette danse, toute cette, enfin cette discipline, parce que c'est quand même, il y a quand même une discipline en fait à suivre hein, dans le Bharatanatyam. Grâce à ça, en fait, on peut justement se relier à soi et au divin. Finalement, ça montre aussi que parfois, même s'il faut savoir lâcher prise, etc. dans la vie, avoir un peu de structure, quand même, ça ramène à l'essentiel.
La structure est essentielle, puisque c'est une si vaste culture comme tout art, par où l'appréhender. La structure nous aide. Donc on va commencer justement par les débuts, la frappe, les exercices. Et elle se retrouve d'ailleurs dans les récitals, puisque ça s'appelle un margam, une route, un chemin, qui rappelle un peu l'entrée dans un temple. Donc il y a l'entrée, il y a l'antichambre, la chambre principale où il y aura le dieu, et puis les salles attenantes, et la sortie. Donc nous allons retrouver dans un récital de Bharatanatyam le même cheminement, on va dire. L'entrée, voilà, on va avancer de cette même façon-là. Donc ce chemin se retrouve dans l'enseignement, dans le récital et dans les temples.
Ben oui, et en soi, parce que du coup, quand tu parles de ça, moi, ça me fait beaucoup penser en fait aux différents corps, à nos couches en fait intérieures. C'est un peu comme quand on passe du corps physique jusqu'au corps subtil, qu'on va jusqu'au corps causal. Même en fait, j'ai l'impression qu'on rentre chaque fois plus dans quelque chose de précis, de chaque fois plus divin. Il y a l'entrée, et après tu te rapproches chaque fois plus de la divinité, en fait, dans la description que tu fais. Le temple, c'est aussi son intérieur, c'est sa maison intérieure, c'est son corps. Donc, je trouve que c'est une très belle description.
Oui.
Et tu parlais aussi, d'ailleurs, de toute la multiplicité des femmes, en fait, qui dansent le Bharatanatyam, et de ce qu'elles peuvent apporter, en fonction de qui elles sont aussi, hein, de ce qu'elles peuvent apporter dans la danse et aussi la sagesse qu'elles peuvent avoir avec l'âge. Par exemple, tu me disais que tu avais une de tes amies qui danse merveilleusement bien le Bharatanatyam parce qu'elle exprime quelque chose de spécial.
Bah, déjà, elle exprime son... son amour pour cette danse, on va dire. Non, plus que ça, sa compréhension de cet art... moi je dis toujours que c'est une yogini. Mm-hmm. le Bharatanatyam, de toute façon, c'est un yoga. Mm-hmm. Hein, mais oui, cet art peut se danser à tout âge. Mon gourou est âgé, et malgré son âge, elle a atteint un tel degré de sagesse, mais plus que sagesse, c'est même physique, que quand elle danse, elle a dansé récemment à Paris, c'est au-delà de tout, je veux dire, l'essentiel est là. Voilà, c'est dépouillé de tout ce qui n'est pas absolument essentiel, et c'est magnifique. Donc oui, je dirais pas que ça se danse à tout âge, mais à tout âge, on peut être harmonieux et dégager l'essentiel. Avec ce style, avec l'aide de ce style, par exemple, ou moi je dirais que ça peut se retrouver dans tous les arts. Mais moi je parle du Bharatanatyam, donc oui, je sais qu'on peut le faire avec le Bharatanatyam, oui.
Bon, mais c'est vraiment, c'est très beau tout ça. Ça donne envie de découvrir le Bharatanatyam. Je vous invite d'ailleurs à le découvrir. Moi, c'est une danse que j'ai pratiquée pendant des années qui m'a apporté beaucoup. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour nos auditeurs, Jyotika?
Venez danser.
Ouais.
Venez danser, venez étirez-vous, étirez votre corps, découvrez le Bharatanatyam, découvrez l'art.
Ok, mais oui. Et est-ce que tu pourrais dire d'ailleurs la signification de ton prénom à nos auditeurs, parce que c'est quand même très joli. Qu'est-ce que ça veut dire, Jyotika?
Jyoti veut dire lumière, Ka veut dire petite. Donc je suis une petite lumière.
Petite lumière qui devient grande quand on l'observe, bien sûr. Bon, en tout cas, vous pouvez, mes chers auditeurs, mes chères pépites, retrouver toutes les infos sur Jyotika dans la description de l'émission. Vous pouvez bien évidemment assister à ses cours, notamment au comptoir de l'Inde, hein, dans le 20e arrondissement à Paris.
Oui. Mon association s'appelle Kajuri, mais je travaille en partenariat avec l'association Les Comptoirs de l'Inde, qui a ses locaux à Paris, dans le 20e arrondissement.
Vous retrouverez toutes ces infos donc sur son site, hein, qui est danse-indienne-paris.com. Et en ce qui concerne les actualités de l'Ayurveda Sourire, vous pouvez bien évidemment me suivre sur les réseaux sous Mihira, M-I-H-I-R-A, Ayurveda. Voilà, bah merci beaucoup Jyotika pour ce partage. Et un très grand merci aussi mes pépites pour votre attention.
Merci, bonsoir.
D'ici notre prochain rendez-vous, je vous envoie une myriade de sourires. Et surtout, rappelez-vous que la joie du cœur est la santé du corps. À bientôt.
L'Ayurveda Sourire, une émission présentée par Gwenaël Bhattar, praticienne en médecine ayurvédique, herbaliste, auteure et conférencière.